La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Série consacrée à Beethoven avec Cécile Post. Bonjour Cécile.
Bonjour Laurent.
On en est au troisième épisode aujourd'hui. Un Beethoven que l'on retrouve dans quoi ? Dans son adolescence, l'année 1787. Il n'est pas très...
Alors, il a 16-17 ans et puis c'est surtout, il va entreprendre son premier voyage d'études. Il va se rendre à Vienne et il va enfin pouvoir rencontrer la personne dont il entend parler depuis qu'il est petit, à savoir Mozart. Alors ça, c'est ce qu'on raconte. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si elle a eu lieu, mais en tout cas, la postérité y tient parce que c'est la rencontre de deux grands du monde de l'histoire de la musique. Et puis aussi, c'est 1789, la prise de la Bastille, la Révolution française, et toutes ces idées vont plaire à Bonne. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir.
La première présente Ludwig van Beethoven.
C'est des actes d'audace qu'il a eu dans ses compositions.
Cette souffrance n'est pas inutile.
Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons.
Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire.
Des partitions totalement illisibles.
L'approfondissement infini de l'espace intérieur.
On entre presque dans le crâne d'un sourd.
Il y a eu un énorme orage.
À Bonn, en 1782, Ludwig van Beethoven a 12 ans et il rencontre Franz Wegeler, qui lui en a 17. Une amitié sincère et profonde va lier les deux hommes, et puis c'est Wegeler qui présente Beethoven à la famille von Breuning. Le couple von Breuning a 4 enfants, Christophe, Stefan, Lorenz et Éléonore. Beethoven vouera une amitié amoureuse à cette dernière et il lui donnera des leçons de musique. Mais surtout, la famille von Breuning devient comme une deuxième famille pour Ludwig. Le jeune compositeur évolue dans un milieu littéraire et artistique, les amis se retrouvent pour lire Goethe, ils vont au théâtre voir les pièces de Schiller et ils lisent les dernières partitions éditées. Au printemps de l'année 1787, l'électeur permet à Beethoven de se rendre à Vienne pour parfaire son éducation musicale. Le jeune Ludwig part avec une idée en tête, rencontrer celui dont il entend parler depuis qu'il est petit, celui dont on lui a tant vanté les talents, Wolfgang Amadeus Mozart.
Beethoven, effectivement, est envoyé parce que c'était une pratique des princes.
La musicologue Elisabeth Brisson.
Quand ils avaient des petits génies, peintres ou musiciens, on les envoyait à Rome pour les peintres ou à Vienne pour les musiciens, quand c'était en Allemagne. Et en 1787, donc, Beethoven a bénéficié de cette attention comme membre de la cour, de l'orchestre de la cour électorale. Il va à Vienne et lui, il espérait bien rencontrer Mozart.
Il paraît certain que les deux personnages qui firent le plus impression sur Beethoven furent l'empereur Joseph et Mozart.
À la demande de Mozart, Beethoven lui joua quelque chose que Mozart, le prenant pour un morceau d'apparat appris par cœur, approuva assez froidement. Beethoven, s'en étant aperçu, le pria alors de lui donner un thème d'une inspiration libre, et comme il avait l'habitude de jouer admirablement quand cela lui disait, animé d'ailleurs par la présence du maître pour lequel il professait un si grand respect, il joua de telle façon que Mozart, se glissant dans la pièce voisine où se tenaient quelques amis, leur dit vivement « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde ».
Mozart, à ce moment-là, était préoccupé par la mort de son père et par Don Juan. Et Beethoven a entendu, peut-être vu Mozart, mais Mozart s'est pas du tout intéressé à lui. C'est bien après, 50 ans après, qu'on a raconté le mot de Mozart, disant il faut faire attention à celui-là, il va faire couler beaucoup d'encre. Enfin, oui, parce que le pauvre jeune Beethoven de 17 ans est rappelé rapidement à Bonn parce que sa mère est malade et qu'elle va mourir et qu'il soit là au moment de la mort de sa mère. Donc, cette rencontre avec Mozart que Beethoven voulait. Hein, ça c'est sûr qu'il voulait rencontrer Mozart parce que c'était quelqu'un d'important pour lui. Comme on dit, elle n'est pas documentée, mais elle a été fortement racontée et avec des récits qui sont faux, mais qui sont encore mordicus, les gens y tiennent, mais c'est bien après qu'on a raconté cette légende.
Plus j'approchais de ma ville natale, plus je recevais de mon père des lettres m'enjoignant de hâter mon retour et de voyager plus rapidement que d'habitude, parce que l'état de santé de ma mère laissait beaucoup à désirer. Je me suis donc hâté autant que j'ai pu, alors que j'étais moi-même indisposé. Le désir de pouvoir encore voir ma mère balayait chez moi tous les obstacles et m'aidait à triompher des pires difficultés. J'ai pu voir encore ma mère, mais dans le plus pitoyable état. Elle était poitrinaire et elle est morte après de longues souffrances et une pénible agonie. C'était pour moi une mère si bonne, si aimable, et ma meilleure amie. Qui donc fut plus heureux que moi, aussi longtemps que je pus lui donner encore ce doux nom de mère et elle l'entendre? Et maintenant, à qui puis-je le dire? Aux images muettes que mon imagination me suggère et qui lui ressemblent? Ludwig van Beethoven, 1787.
Maria Magdalena, la mère de Ludwig, meurt de la phtisie, aussi appelée la tuberculose, le 17 juillet 1787.
Pour le soin de la tuberculose, c'était vraiment très très compliqué. Les idées étaient d'une pauvreté extrême.
Le spécialiste de l'hygiène et des pratiques corporelles, Georges Vigarello.
Parce que la tuberculose, c'est considéré comme un... si vous voulez, l'imaginaire considère que c'est un envahissement. Vous toussez, vous êtes envahi par des sérosités, vous toussez aussi du sang, etc. Donc l'idée totalement, aberrante par rapport à nos repères, c'est d'alléger l'intérieur, d'en faire des saignées. Voyez, ou éventuellement favoriser la respiration, mais vous avez encore des auteurs qui vont vous dire, si vous permettez aux malades de respirer dans des étables où l'air a une sorte de force un peu naturelle, c'est très bien. Donc on est très très loin des repères d'aujourd'hui. La phtisie, c'est vrai, la maladie de plus en plus importante. Vous voyez, il y a une sorte de compétition entre les maladies. La grande maladie du 18e siècle, c'est la variole, qui est terrible parce que c'est des boutons qui vous envahissent et qui envahissent l'intérieur du corps. Et puis, c'est une maladie qui est partagée socialement. Louis XV, mort de la variole en 1776. Donc là, il y a un problème qui est vraiment centré sur une forme d'infection. Et puis, la variole, pour des raisons très difficile à percevoir, recul. Et à ce moment-là, c'est d'autres maladies qui prennent la place, dont la phtisie. Il se passe une chose très importante quand même, vous voyez, dans la deuxième moitié du 18e, c'est que les axes prêtés au fonctionnement du corps deviennent brusquement différents. Et un des axes centraux est lié à la découverte de l'oxygène et au rôle prêté à la respiration à partir de Lavoisier en 1777. Que dit Lavoisier? Lavoisier dit, vous savez, la respiration, ça ne doit plus être pensé comme auparavant, c'est pas une activité qui consiste à rafraîchir votre corps ou une activité qui consiste par son rythme à favoriser le rythme cardiaque, pas du tout. La respiration, c'est la fonction qui permet de créer un brûleur à l'intérieur de votre poitrine. Et ça renvoie à l'image de la machine à vapeur. La machine à vapeur, elle fonctionne en transformant la chaleur en mécanique. Et Lavoisier va vous dire, c'est la même chose. À partir de ce moment-là, ce qui est central, si vous voulez, on va revenir sur l'air, ce qui est central, c'est pouvoir faire fonctionner le corps avec plus de disponibilité d'oxygène, avec plus de possibilités de rendu mécanique, et toutes ces questions sur chaud, froid, recul deviennent moins importantes. Et on voit très très bien que les conseils commencent à être, si vous vous baignez, alors c'est plus net la présence du bain au début du 19e, hein, si vous vous baignez, recourez à l'eau tiède, etc. Les exigences du froid ont quand même bougé. Même si ces exigences de froid ne sont pas complètement abandonnées, vous avez encore au milieu du 19e, par exemple, des nageurs qui vont vous dire « Nagez dans la Seine, parce que c'est là que vous allez trouver un renforcement à cause du froid, et ne vous baignez pas dans ces petites piscines ou surchargées de monde, où l'eau est chaude et où on s'affadit. » Donc, c'est pas complètement disparu, mais c'est plus au cœur du dispositif du renforcement physique. Alors, bien entendu, à partir du moment où la découverte de l'oxygène permet de penser un corps fonctionnant comme une machine où la chaleur est l'élément central permettant le comportement et la mécanique, à partir de là, évidemment, commence à bouger la vision de la phtisie. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez une vision selon laquelle l'oxygène fait brûler le poumon, on peut éventuellement faire brûler les tubercules, comme disent les auteurs des années 20 et des années 30. Vous avez même des auteurs qui vont jusqu'à dire, ce qui est fou, hein, il faut faire marcher les malades. Vous voyez, il faut les faire monter des montagnes, tirer la poitrine vers l'arrière, mettre un bâton sur les épaules et les faire marcher. Bon, ce qui est une folie. Mais on voit bien que ça passe par cet imaginaire selon lequel le poumon est capable de brûler. Et donc de brûler les tubercules.
Depuis que je suis à Bonn, je n'ai encore connu que de rares heures de satisfaction la plupart du temps. J'ai été pris d'asthme et j'ai quelques raisons de croire qu'une phtisie ne se déclare. Il faut ajouter à cela aussi la mélancolie qui est pour moi presque un aussi grand inconvénient que mon état de santé. Ludwig van Beethoven, 1787.
Vous avez deux visions des maladies chroniques, enfin graves. Il y a une première vision qui est celle de l'épidémie, autrement dit ça se répand comme ça, d'une façon qui n'est pas très contrôlable. On pense que la peste, elle est provoquée par des déplacements de l'air, un venin de l'air qui vient vous attaquer, donc on n'a pas du tout l'idée que ça se communique de personne à personne. Mais c'est vrai qu'insensiblement, il y a quand même une idée de la communication. La première grande maladie qui est considérée comme communicable de personne à personne, c'est la syphilis. Vous voyez. Et puis, quand même, il y a cette, même s'il y a des résistances, il y a cette idée sur laquelle la variole, ça peut se communiquer. Et ça peut se passer de personne à personne, qu'il ne faut pas trop toucher le malade, il ne faut pas l'approcher, etc. Il faut... La grande idée, même déjà au XVIIe, la grande idée concernant la variole, c'est partir parce que ça peut se communiquer et brûler. Et brûler les pièces dans lesquelles le malade a vécu. Donc l'idée de contagion, même si elle n'a pas du tout la précision que lui donnera un auteur comme Pasteur, insensiblement, elle commence à apparaître. Mais vous savez, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, cette question. Parce que, à une époque, qui est celle de Beethoven, d'ailleurs, lorsque le choléra prend une importance, les fameuses maladies qui se succèdent. Vous voyez, le choléra, qui était très peu présent au 18e et qui va être très fortement présent au 19e. Avec la grande crise de choléra en 1832, après la mort de Beethoven, d'ailleurs, à Paris. Lorsque le choléra apparaît dans la ville de Paris, l'idée que la proximité peut entraîner de la contagion est présente chez certains et totalement absente chez d'autres. Alors c'est vrai que certains vont dire oui, ça naît à partir des ateliers des ouvriers, vous voyez, avec les odeurs que les ouvriers peuvent provoquer, bon, ça naît dans certains quartiers, etc. Mais l'idée sans laquelle le malade lui-même peut vous contaminer, en clair, c'est vraiment le mot, contagion, elle n'a pas la force qu'elle aura à la fin du 19e et en même temps, elle n'est pas totalement absente.
l'âge de 16 ans. Il a eu la charge de sa famille à la demande de sa mère qui est décédée de tuberculose alors qu'il y avait encore dans la famille 4 enfants.
Le médecin Jean-Louis Michaud.
Ludwig qui était l'aîné, qui avait 16 ans, 2 jeunes frères et une sœur d'un an. Il avait un père qui ne s'occupait absolument pas de sa famille, si bien qu'à l'époque, Beethoven avait déjà un traitement. À l'âge de 14 ans, il a reçu un traitement comme organiste adjoint. Mais ça ne suffisait pas, bien sûr, à couvrir les frais. Si bien qu'on a fait une saisie sur salaire du père pour pouvoir gérer financièrement la survie des enfants. Donc, à l'âge de 16 ans et pendant plusieurs années, Beethoven n'a plus composé, s'est occupé de sa famille et, chose importante, il a profité que Bonn devenait une ville universitaire pour s'instruire. Et ça a joué un rôle important dans sa vie. C'est un homme qui a cherché à s'instruire parce qu'il n'avait pas eu un enseignement très développé, l'on dit, qu'il n'est plus allé à l'école à partir de l'âge de 10 ans et qu'il ne connaissait pas les 4 opérations des mathématiques. C'est une façon de parler. Donc, c'est certainement quelqu'un qui s'est trouvé dans des situations toujours de grandes difficultés, qu'elles soient affectives, qu'elles soient liées à ses affections multiples, mais il s'en est toujours sorti. Donc, vous voyez, il y a là des circonstances qui montrent qu'à travers toutes les difficultés de la vie, cet esprit chagrin, cet esprit difficile, cet affreux, avait une force de caractère extraordinaire et qu'il s'en est sorti grâce à sa créativité, sa musicalité qui ont fait qu'il nous a laissé des œuvres immortelles.
Juillet 1789, Paris, prise de la Bastille.
Les grandes idées de la Révolution française, au fond, se résument à un seul mot.
L'écrivain et historien français, spécialiste de l'histoire du Consulat et du Premier Empire, directeur de la Fondation Napoléon, Thierry Lenz.
Et vous allez voir qu'il est toujours d'actualité, y compris dans la France contemporaine, c'est l'égalité. Alors évidemment, lorsque on vous en parle, on vous dit liberté, égalité, fraternité, mais au fond, le bilan de la Révolution, c'est surtout une marche vers l'égalité, c'est-à-dire la fin du régime féodal, l'égalité devant la loi, qui se manifeste de façon éclatante dans le Code civil de 1804, mais qui est déjà en germe dans les grandes décisions de la Révolution française. La Révolution française ouvre tout le champ des possibles aux citoyens, quel que soit leur origine de naissance, hein, donc il n'y a plus de différence devant la loi entre les aristocrates et les citoyens non-aristocrates. C'est l'expression suprême de l'égalité qui s'est manifestée dès le 4 août 1789 avec le fameux vote sur l'abolition des privilèges de l'Assemblée nationale constituante.
1789, Bonn est réceptive aux idées révolutionnaires, et Beethoven aussi.
Lorsqu'on parle de l'Allemagne de l'époque, il faut essayer d'éviter de voir l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est-à-dire une Allemagne qui a été unifiée, même si elle reste un État fédéral, mais enfin qui a été unifiée sous l'impulsion de la Prusse. ce qui est très particulier dans l'Allemagne de l'époque. Toute la zone qui se trouve plutôt vers l'ouest, c'est-à-dire, on va dire, la rive gauche du Rhin et un grand morceau de la rive droite, enfin le morceau mitoyen, est une région qui n'est pas à ce moment-là, à domination mentale prussienne. Hein. C'est une région qui est extrêmement tournée vers l'ouest et par conséquent vers la France et qui, bien que faisant partie du Saint-Empire romain germanique, essaie quand même de se libérer du joug autrichien, même si, il faut aussi le reconnaître, le Saint-Empire romain germanique est un corps politique malade avant la Révolution et que l'Autriche n'y exerce plus réellement de domination.
Il n'y a pas, à l'époque, d'intelligentsia allemande unie.
Le germaniste Jean-Pierre Hammer.
Il y a individus qui interviennent en fonction de leurs convictions. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart d'entre eux...